L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, une invitée qui est géographe et politiste à son compte. Claire Vifustek est spécialiste des interactions entre les sociétés et l'environnement. Vaste question cruciale, car oui, face aux enjeux climatiques et écologiques, nous avons besoin des scientifiques. Qu'il s'agisse de limiter et de s'adapter au changement climatique, et qu'il s'agisse de sauver la biodiversité, de mettre fin aux pollutions en tout genre, d'arrêter d'épuiser les ressources, l'eau, les matières premières ou les sols qui nous nourrissent. Bref, tout ça est crucial puisqu'on n'a qu'une seule planète. Mais pour réussir à agir ensemble, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des conflits, des associations dissoutes par-ci, des syndicats agricoles conservateurs par-là, des crispations, des incompréhensions. La sobriété, oui, mais pour qui et comment ? Bref, faire face au changement climatique, c'est bien une question sociale et politique du vivre ensemble avant tout. Et c'est là que notre invité peut être bien utile. Bonjour Claire Vifustek.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire être géographe et politiste à son compte ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Alors... Eh bien, en fait, ça s'est fait un peu au fil du temps. En fait, moi, j'ai travaillé dans des contextes assez différents, en Palestine, en Polynésie. Et à un moment donné, j'ai voulu rentrer en Bretagne et travailler sur des enjeux en Bretagne. Et ça a coïncidé avec une première demande de prestation. Et donc, j'ai créé une micro-entreprise. Et donc, ça s'est développé au fur et à mesure. C'était en 2017. Et avec trois types d'activités, de la formation, donc surtout de l'enseignement.
Oui, quand même, on reste malgré tout, on est chercheur, on reste enseignant aussi.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Donc de la formation, de l'enseignement, de l'accompagnement des acteurs du territoire, donc là plutôt de la gestion et du suivi de projets, des projets de capitalisation, d'évaluation, et puis des activités de recherche à proprement dite.
Ah oui, donc on peut faire de la recherche à son compte.
Oui, en fait ça se développe je pense de plus en plus, c'est ce qu'on appelle un peu le tiers secteur de la recherche. En fait, c'est des acteurs qui produisent de l'innovation et de la connaissance, qui peuvent faire partie du secteur non marchand, comme des associations, des syndicats. Ça peut être aussi non marchand à but non lucratif, comme l'économie sociale et solidaire, et ça peut être marchand à but lucratif, comme des petites structures, des micro-entreprises.
On donc, connaît, voilà. Oui.
Et donc, de plus en plus, en fait, on a tout ce qui est enseignement et recherche organisé au sein des écoles, des universités, des institutions de recherche, mais également ce tiers secteur de la recherche qui est pris en compte.
Et en quoi c'est différent, en fait, ce tiers secteur par rapport à l'université ? Qu'est-ce que vous apportez ? Enfin, qu'est-ce que...
En fait, là, par exemple, en tout cas dans mon cas, ce qui est différent, c'est que je vais avoir des activités vraiment de recherche et vraiment de mise en place de projets, d'action. Et je trouve que ça s'alimente beaucoup, en fait, d'avoir ces réflexions sur un terrain qui va être breton et en même temps la mise en place de projets. Je trouve que les deux s'alimentent et donc les réflexions que je peux avoir dans les cadres de projets de recherche vont m'aider dans la mise en place de projets et puis cet ancrage dans le territoire et dans le concret aussi permet d'alimenter des questions de recherche qui sont moins hors sol peut-être ou plus liées aux problématiques des acteurs.
Ouais, c'est ce que j'allais dire quand c'est des recherches plutôt qu'on appelle recherche-action que vous menez ou...
Pas forcément, mais effectivement, du coup, ça tend plus vers là. Et puis aussi, c'est cette question du retour vers les acteurs. On peut faire de la recherche qui ne soit pas de la recherche-action, mais d'avoir quand même ces temps de retour vers les acteurs concernés.
Des restitutions, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Public ou pas, d'ailleurs. Ouais. Enfin. Et c'est qui les clients, justement, les acteurs en question ?
Du coup, moi, je travaille avec des universités dans le cadre de projets de recherche assez classiques. Des projets européens, des projets de l'Agence nationale de la recherche. Et puis après, sinon, ça va être des collectivités comme la région Bretagne ou l'établissement public de la baie de Douarnenez.
L'EPAB,
exact.
On parlera peut-être en fin d'émission. Donc il y a de l'argent en fait pour la recherche entre guillemets qui est pas privée parce que c'est pas vraiment privé en fait ce que vous faites, c'est toujours public mais
c'est toujours ça. Public, tout à fait. Mm-hmm. En fait, je pense que ça En fait, c'est des choses qu'on a vues, je pense, dans plein de secteurs publics où de plus en plus on fait appel à des prestataires.
Extérieurs, voilà, c'est ça.
Extérieurs. Ouais. Et ça touche aussi le secteur de la recherche. On a notamment en sciences sociales pas beaucoup, beaucoup de postes. Et par contre, on a quand même toujours des besoins. Et donc,
C'est rassurant, ouais. Quelque part, de savoir qu'il y a quand même des besoins et qu'on essaye de les combler. Et vous, alors vous êtes géographe et politiste, ça veut dire que vous avez fait deux thèses, enfin comment ça
non,
se passe?
Non, alors moi j'ai fait des études jusqu'en master en sciences politiques et une thèse en géographie. Et après, on peut être qualifié dans différentes disciplines, donc on reconnaît en fait une appartenance un peu à une discipline. Et donc j'ai été qualifiée en sciences politiques et en géographie. Donc ça veut dire que je publie ou que j'enseigne dans les deux disciplines.
Et quand vous étiez en Palestine ou en Polynésie, c'était sur des sujets liés à l'environnement aussi déjà ou...
Oui, toujours. Alors moi, je travaille toujours sur des questions liées à l'environnement. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de gestion de l'eau et de changement climatique. Et toujours dans une optique d'étudier la production des connaissances et des liens avec l'action publique.
En Palestine, je crois que l'eau, c'est un peu le sujet d'ailleurs, hein. C'est ça?
Ouais.
C'est un peu la raison du conflit israélo-palestinien finalement, c'est l'eau, c'est ça?
Ouais, alors c'est toujours multifacteur, mais l'eau se retrouve au cœur de plein de tensions, ouais, tout à fait.
Et là, on commence à le sentir chez nous aussi. Et en Polynésie, c'était quoi les ouais. enjeux écologiques?
Eh ben, moi j'ai travaillé particulièrement sur, il y a plusieurs archipels, donc sur l'archipel des Tuamotu, là sont plutôt des atolls, des îles basses, et sur la question de l'accès à l'eau potable, qui en fait se fait par la récupération d'eau de pluie. Mais les politiques françaises qui s'appliquent dans le domaine de l'eau en Polynésie française stipulent qu'en fait ce sont les municipalités qui doivent fournir l'accès à l'eau potable à l'ensemble des citoyens. Donc ça pose une question de comment on applique une loi face à en fait une situation qui fonctionne, mais qui ne répond pas aux critères législatifs, quoi.
Voilà. Et donc, dans votre cas, c'est vraiment la géographie humaine, on est d'accord?
Oui.
C'est pas tellement la géographie physique, hydrogéologie ou quoi, hein.
Non, tout à fait. C'est vraiment les dimensions sociales et politiques de la géographie qui m'intéressent.
Et donc, dans ce que j'ai dit en introduction, je disais que finalement, il n'y aura pas de politique environnementale sans comment dire, question sociale vraiment posée, c'est ça? Vous êtes en plein dedans.
Tout à fait. Et comme vous le disiez, on pourra en reparler après, mais la question, par exemple, là, de la réalisation d'atlas socioculturels en Bretagne, c'est vraiment une volonté... justement d'aborder les questions de l'eau au-delà de leurs questions techniques par des mètres cubes, des questions de pollution, etc., mais de redonner un peu à l'eau une place sur les questions sensibles, les questions du lien, de l'attachement, etc., d'aborder les choses un peu différemment.
Symbolique aussi, quoi. Ouais.
Tout à fait.
Mm-hmm. Alors, dans ce que vous menez plusieurs dossiers, voilà, et il y en a une qu'on va particulièrement développer. Alors, c'est plutôt de l'eau salée, pour le coup, c'est du plancton. Ça s'appelle, c'est Objectif Plancton, c'est le nom du...
Oui, le programme s'appelle D'accord. Objectif Plancton.
Alors, en quoi ça consiste?
Alors, le programme Objectif Plancton, c'est un programme de sciences participatives. C'est un programme qui a démarré en 2014, donc ça fait quelques années. Et donc, ça réunit différents types d'acteurs, donc des scientifiques, plutôt des écologues, des biologistes, des plaisanciers et des participants, des médiateurs scientifiques et des coordinateurs qui s'occupent de gérer l'ensemble du projet. Et donc, le projet a vocation à étudier le plancton côtier.
Plantes et animaux, c'est ça?
Tout à fait. Donc, les deux dimensions. Donc, le phytoplancton qui est qui est végétal et le zooplancton qui est animal.
Et pourquoi l'étudier?
Alors, pourquoi? En fait, c'est assez révélateur de la santé des écosystèmes côtiers. Sur le long terme, on va pouvoir voir des évolutions aussi de l'impact des perturbations anthropiques ou naturelles sur le plancton et donc sur les écosystèmes. Et puis après, le plancton joue beaucoup de rôles. C'est un piège à carbone, il produit du dioxygène. C'est aussi la base de la chaîne alimentaire. Donc voilà, c'est quand même un enjeu assez crucial.
Oui, c'est-à-dire que le réchauffement, il participe à limiter le réchauffement climatique, quelque part, c'est ça?
Tout à fait.
En absorbant beaucoup de
CO2. Oui.
Mmh. Et comment est-ce qu'on définit le plancton? Enfin, on l'a déjà un peu défini sur cette antenne, mais... c'est pas inutile de rappeler qu'est-ce qui fait plancton.
Alors le plancton, alors du coup, c'est de façon assez simple, c'est tous les organismes qui peuvent pas lutter contre le courant. Donc ça peut être des choses très très petites comme des bactéries et des virus, mais ça peut être des choses assez grandes comme des méduses qui peuvent faire, je ne sais pas, plus d'un mètre.
Ah, voilà. C'est du plancton ?
Oui, tout à fait.
Et je croyais que les méduses, elles avaient plus ou moins un dispositif pour nager, non ? Pas du
ouais,
tout ?
Oui, alors moi, du coup, je ne suis pas spécialiste de la biologie ouais. des animaux, mais même les animaux qui peuvent se déplacer dans la colonne d'eau, eh bien, en fait, donc effectivement, ils ont une capacité d'action, hein, ils peuvent un peu se mouvoir, mais mine de rien, ils sont quand même transportés par les grands courants.
Ah ouais, donc tout ce qui est porté par les courants et du plancton. Bon, très oui. bien, alors voilà, on a appris quelque chose comme quoi c'est toujours utile de redéfinir. Et le territoire de cet objectif plancton, c'est ça va d'où à où en gros
Alors il y a trois sites d'études en Bretagne, la Rade de Brest, la baie de Concarneau et la Rade de Lorient. Et il y a un développement actuellement avec un projet de coopération avec le Québec également.
Ah oui, de l'autre côté de l'Atlantique. Et comment est-ce que ça se passe ? Enfin, qu'est-ce qui fait quoi ? Détaillons.
Alors, chaque année, il y a trois journées de collecte du plancton. Donc, les dates des journées sont décidées en amont entre les scientifiques et les médiateurs en fonction des... il faut que les bateaux soient déjà sortis, il faut que les marées correspondent. Donc voilà, en fonction de différents critères, les dates sont fixées. En amont des journées de collecte, les médiateurs font tout un travail pour contacter les plaisanciers, voir qui est disponible, quels bateaux sont disponibles pour aller sur quel point de collecte, combien de place on a dans les bateaux.
Est-ce qu'il faut que ça soit forcément en bateau ? On ne pourrait pas collecter depuis la plage, quoi.
Non, enfin, c'est forcément en bateau. Donc, il y a, je ne sais plus, je crois, 29 points de collecte sur les trois sites en tout. Et ça a fait mobiliser une quarantaine de bateaux.
Ah oui, parce que pour que ça soit scientifiquement intéressant, il faut que ça soit toujours au même endroit qu'on collecte.
En fait, justement, un des intérêts là, du projet et du fait que ce soit participatif, c'est que tous les points de prélèvement sont prélevés à la même heure. Et en fait, les scientifiques n'auraient pas... Il y a un bateau, par exemple, et donc le temps qu'ils aillent d'un point jusqu'au dernier point, en fait, la marée aurait changé, les conditions auraient complètement changé. Et donc là, tout l'intérêt, c'est que tous les prélèvements se font au même moment. Et donc, ça donne une vision globale de la rade, des rades ou de la baie de Concarneau.
Donc, il faut avoir une petite flotte, là, une petite armée de bateaux, de plaisance. C'est toujours les mêmes personnes ? Enfin, comment ça se passe ? Parce que là, c'est participatif, donc c'est votre rayon.
Alors du coup, c'est pas toujours les mêmes personnes. Il y a des personnes qui viennent depuis 2014, sans exception. Et puis, il y a aussi des nouvelles personnes. Les contacts se font par... les médiateurs contactent les marinas, les associations. Beaucoup de bouche à oreille aussi, des plaisanciers qui vont en parler à des amis. Et donc, c'est un peu comme ça que ça se met en place.
Et il faut un bateau particulier ? Enfin, est-ce qu'il y a une demande à ce niveau-là ? Ou est-ce qu'on peut y aller en kayak ? Enfin,
non, alors, on peut aller avec tout type de bateau. Après, les médiateurs veillent à ce que, par exemple, si un point est loin, qu'il n'y a pas trop de vent, ce soit un bateau à moteur, on va mettre les bateaux à voile sur un point plus près. Et en parlant de kayak, effectivement, il y a une association à Concarneau qui a proposé de faire des prélèvements en kayak. Donc, ça demande des ajustements de protocole, de matériel, etc. Mais c'est aussi possible.
Et alors, quel est le matériel, justement ?
Alors, le matériel, c'est un matériel qui a été adapté du matériel classique utilisé par les scientifiques sur des gros bateaux. Donc là, il a fallu adapter pour que les participants puissent l'utiliser eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs... Donc, le matin, les participants arrivent et donc les médiateurs et les scientifiques distribuent les kits. Donc, ce sont des grandes caisses avec tout le matériel à l'intérieur.
Donc, c'est volumineux, quoi. D'où le problème éventuel du kayak, quoi.
C'est ça. Et puis, c'est ça. Et donc, dans ces caisses, il y a le protocole de collecte qui est rappelé, donc à quel moment, comment ça se passe, comment on fait. Et puis, c'est rappelé par les médiateurs et les scientifiques également. Et donc, il y a plusieurs sortes de matériel. Il y a des filets à plancton.
Très fin, je suppose. Mais
justement, la maille est différente si on veut pêcher, entre guillemets, du zooplancton ou du phytoplancton.
Ah oui, donc parce qu'il y a des moments où on va pêcher du phytoplancton et d'autres moments du zooplancton.
Ouais, c'est surtout que ce n'est pas les mêmes mailles. On n'attrape pas la même chose. C'est plus petit, le phytoplancton, que le zooplancton. Donc, les mailles sont adaptées. Il y a eu un peu de tâtonnement. Il y a aussi des tubes collecteurs. Donc, c'est des tubes qu'on descend dans l'eau pour prélever là de l'eau dans la colonne d'eau. Il y a aussi des disques de séquille. Donc, ça, ce sont des disques noirs et blancs qu'on plonge dans l'eau pour regarder jusqu'où l'eau est transparente, donc pour vérifier la turbidité de l'eau.
Et on note, je suppose.
Voilà, et on note, effectivement. On a un cahier. Donc, il vaut mieux être plusieurs.
Ah oui, c'est ça aussi, ouais.
Oui, parce qu'il y a souvent une personne donc, qui conduit le bateau, mais après, c'est bien d'être qu'il y ait deux personnes au moins en plus pour réaliser les manipulations.
Quelles sont les motivations? Alors ça, c'est peut-être votre partie, justement. Vous, qu'est-ce que vous faites exactement dans le projet?
Oui. Alors, moi, en termes de méthode, déjà, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup d'observations participantes. Donc, j'assiste à toutes ces journées de collecte. J'embarque avec les plaisanciers. Et puis, je fais aussi des entretiens individuels avec les différents acteurs présents. Et juste pour terminer sur la journée, donc après, les plaisanciers reviennent à terre et donnent leurs échantillons aux scientifiques qui sont là. Donc les scientifiques sont là et les médiateurs. Et donc il y a plusieurs espaces, enfin plusieurs... Les scientifiques, tout de suite, ils ont besoin de faire des manipulations, de filtrer l'eau par exemple. Et les médiateurs sont là aussi pour présenter le plancton. Donc il y a de la médiation à la fois sur le travail scientifique et sur le plancton lui-même.
On peut le regarder par exemple au microscope ou...
Voilà, d'accord, et les plaisanciers sont très friands de regarder ce qu'eux ont rapporté dans leur échantillon.
Oui,
voilà.
J'imagine. Et donc, revenons-en à ce que vous faites pendant ces journées ou en dehors de ces journées, ouais. D'ailleurs.
Alors, moi, je me suis intéressée à plusieurs choses. Tout d'abord, au rôle et aux motivations des différents types d'acteurs qui sont présents. Donc, bien sûr, quand je le dis comme ça, ça fait des typologies, donc des catégories. Mais en vrai, les choses sont un peu plus nuancées et hybridées. Mais donc, les scientifiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un intérêt matériel et logistique assez évident. C'est-à-dire que ce protocole-là, cette recherche-là, ne pourrait pas être mise en place si ce n'était pas participatif.
Ouais, ce serait trop cher, quoi. Enfin, exactement. Il faut du bénévolat et des bateaux volontaires, quoi.
Ouais, ouais. Tout à fait. Il y a aussi, pour les scientifiques, toute la question de la transmission. Il y a des étudiants de la licence jusqu'au doctorat qui participent. Et donc, c'est vraiment des lieux de formation et de transmission d'un métier, d'une passion. Et beaucoup le plaisir aussi d'être là, parce que là, les scientifiques sortent de leur laboratoire et de leur contexte du quotidien, échangent avec des personnes avec qui ils n'échangent pas tous les jours. Et donc, il y a un réel plaisir à échanger, transmettre, en gros, pour les scientifiques.
Et donc, ce qui est ressorti de vos études de ces gens jusqu'à présent, qu'est-ce qui en est ressorti?
Pour les participants?
Oui, pour les participants.
Ouais. Les participants, il y a beaucoup une question de plaisir à participer. Ils ont beaucoup de goût à participer pour différentes raisons. Ça peut être pour partager un moment convivial, parce qu'ils sortent leur bateau. Parfois, ils invitent de la famille, des amis. Il y a aussi le plaisir de contribuer à un projet de recherche, donc de faire quelque chose d'utile, de faire une sortie en mer qui change de d'habitude.
Oui.
Voilà. Et aussi la découverte, l'intérêt pour le plancton.
Oui, c'est ça. C'est quand même...
Oui, parce que c'est quelque chose d'invisible et qui est rendu visible par les microscopes, par les loupes binoculaires, par des outils en fait. Mais les participants, au fur et à mesure, acquièrent de la connaissance. Et quand on récupère un flacon d'eau, en fait, au départ, on ne voit pas grand-chose. Mais avec de l'expérience, les participants voient qu'il y a beaucoup de matière dans leur échantillon. Donc en fait, petit à petit, et puis même après, lors des moments de restitution, ils arrivent à identifier différentes espèces de plancton.
Ça a suscité éventuellement des vocations?
Pour les étudiants qui participent au niveau licence, etc., oui. Il y a des étudiants qui, du coup, après, font leur stage de master dans le cadre du projet, vont faire une thèse, du coup, sur le plancton. Et oui, en tout cas, dans ce cadre-là, ou même j'avais l'exemple de grands-parents qui emmenaient leurs enfants et du coup, d'un garçon qui était très intéressé par la biologie marine, du coup.
Quel est le profil sociologique de ces plaisanciers? On les imagine assez âgés. Est-ce que je me trompe?
Il y a un peu de vrai. Et je crois qu'il y a eu beaucoup, mais je crois que ça change. En fait, là, on voit de plus en plus de jeunes et de familles. C'est aussi l'occasion pour des parents d'expliquer leur métier à leurs enfants, même s'ils ne sont pas scientifiques, mais par exemple, ils vont travailler dans le monde de la pêche ou ils vont manipuler. Voilà, et en fait, ça leur permet d'expliquer avoir un peu leur métier ou des métiers qu'ils ont fait avant. Voilà, je me souviens d'une maman qui disait qu'elle racontait que ça lui permettait de montrer à ses fils qu'elle avait fait avant de travailler dans la pêche. Elle avait travaillé dans des institutions de recherche et donc voilà, ça lui permettait de montrer un peu tout ça.
Après, c'est clair que sociologiquement, avoir un bateau, ça marque un peu. Enfin, on peut pas être tout au bas de l'échelle. On n'a pas de bateau, quoi.
Mais après, du coup, les plaisanciers indiquent combien de places ils ont dans leur bateau. Alors, parfois, ils amènent leurs proches. Voilà, mais et puis, les médiateurs essayent de faire participer des étudiants dans chaque contexte. Mais c'est aussi ouvert si quelqu'un veut s'inscrire et vient dire bah, « moi, je n'ai pas de bateau et j'aimerais embarquer quand même », c'est tout à fait possible. Mais c'est souvent... effectivement, de toute façon, des gens qui ont un intérêt avec, qui ont un intérêt pour les questions soit de navigation, soit d'enjeux littoraux et maritimes.
Est-ce qu'il y en a qui se sont convertis aux enjeux environnementaux, justement, qui étaient plus sur le loisir et qui sont devenus vraiment des fervents défenseurs de l'environnement ?
Ouais, enfin, il y a plusieurs personnes, en tout cas, qui m'ont dit qu'elles se rendaient pas compte, en fait, à ce point-là, et que ça leur a permis de se rendre compte de, voilà, des enjeux environnementaux, parce qu'en fait, quand on regarde le plancton, après, quand les médiateurs montrent le plancton, en fait, ça leur permet d'aborder plein de questions. Voilà, ils décrivent le plancton, ce qu'on voit, mais ce qu'ils disent souvent, c'est que à partir d'une goutte d'eau, on peut parler de tout. Et en fait, on va trouver une particule de plastique, voilà, quelque
tout
chose.
Tout le temps, à chaque fois.
Voilà, donc ouais. En fait, ça va être l'occasion de parler des pollutions plastiques, autres. Et, voilà. Et en fait, il y a toujours des échanges qui se créent au-delà de la question du plancton.
Et du point de vue biologique, écologique, est-ce que vous... enfin, c'est pas votre partie, mais on a vu des évolutions depuis 2014, des choses inquiétantes ou rassurantes
Alors ça, je ne saurais pas dire. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont identifié, par exemple, sur la rade de Brest, sur le phytoplancton, que ce ne sont pas les mêmes espèces de phytoplancton aux différents endroits. Sur les embouchures, par exemple, de l'Élorne ou sur, au niveau du Goulet, on n'a pas les mêmes espèces. Donc, il y a une différence de répartition spatiale et aussi temporelle. Entre les prélèvements du printemps et de l'été, on n'a pas les mêmes espèces. Voilà. Et sur le zooplancton, c'est plutôt des personnes qui travaillent sur l'ichtyoplancton. Et l'ichtyoplancton, c'est l'étude des larves de poissons. Donc, c'est des personnes du Muséum et de Sorbonne Université. Sur le phytoplancton, c'est plutôt l'IUEM, donc à Brest.
Institut universitaire européen de la mer.
Exactement. Et donc là, pour les larves, ils ont identifié 850 larves de poissons qui sont mises en collection après au Muséum. Donc, c'est un peu un catalogue pour répertorier tout ce qui existe.
Mais ils voient pas, ouais, ils étudient pas forcément les évolutions dans le temps, quoi. Alors, enfin, où ça va venir plus
si
tard.
Si ça va venir, mais effectivement, il faut des échelles de temps très longues.
Oui, même si 2014, ça commence à faire, mais bon, j'imagine que le protocole a mis un peu de temps à se mettre en place. Ouais. Et donc, il faut avoir une trentaine de plaisanciers, ça suffit.
Ça dépend des sites. Sur Brest, il y a beaucoup de points. À Concarneau, il y a 5 points. Lorient, voilà, je dirais des bêtises, mais ouais. Mais en tout cas, ils arrivent à trouver toujours des volontaires.
Et vous, Claire Vifustek, votre rôle, enfin la mission qu'on vous a assignée, là, c'est quoi exactement ? Enfin, c'est
Alors en fait, là, c'est venu d'un constat qu'il y avait vraiment beaucoup d'acteurs impliqués, que c'était un projet qui durait depuis 2014, et de se dire, ben, en fait, on aimerait mieux comprendre qui sont les gens qui font Objectif Plancton. Donc c'est ce que je disais, l'Objectif Plancton, c'est un projet sur le plancton, mais moi, ce que j'étudiais, c'est un peu l'aventure humaine Objectif Plancton. Donc de voir qui est là, qui fait quoi, pourquoi, et aussi qu'est-ce que c'est que la science participative. Et puis aussi, on parlait de qu'est-ce que c'est que le plancton. Donc je vous ai donné une définition un peu basique. Mais après, pour les participants, moi, je vais regarder quelles sont les représentations du plancton et ça va être très, très divers.
Voilà. Et ça pourrait éventuellement, ce que vous avez appris là sur la science participative, pourrait éventuellement servir dans d'autres recherches, enfin dans d'autres opérations de science participative, même pas autour du plancton.
Oui.
D'accord, bon, on verra. Il nous reste juste 3 minutes pour aborder un autre dossier sur lequel vous travaillez, en fait, c'est le LAPIC. Nous, on en parle régulièrement sur Radio Évasion, puisque c'est donc un atlas socio-culturel d'une rivière assez méconnue, à Plonévé-Porzay. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pareil, dans ce projet-là ?
Alors, du coup, juste pour resituer, le projet d'atlas socio-culturel du LAPIC, il vient après une expérimentation sur le Bélon, qui avait été une dynamique portée par Eaux et Rivières et par la région Bretagne. Et là, actuellement, sur 2 ans, donc depuis le début de l'année, il y a 4 projets d'atlas qui sont soutenus par la région Bretagne. Et sur le Finistère, c'est donc le LAPIC à Plonévé-Porzay qui est très peu connu.
Et aussi la Radio Évasion qui étudie la BER, mais on vous en parlera plus tard, sera plus avancé.
Et donc, bah, moi, mon rôle, là, c'est d'accompagner l'EPAB, donc l'établissement public d'aménagement de la baie de Douarnenez, dans la mise en place du projet. Donc, il y a eu toute une phase de contact des différents acteurs sur le terrain, de présentation du projet, donc de voir qui est là, qui est intéressé par quoi, de contacter les associations, les agriculteurs, les élus, les habitants.
Comment les mobiliser,
C'est ça, comment mobiliser. Et puis, j'ai aussi toute une mission d'organisation d'événements et d'animation. Donc, c'est ce qu'on
ah
a...
Oui, vous faites ça aussi. Multicarte.
C'est ce qui est dans le projet appelé les causeries et les traversées. Donc, les causeries, c'est des échanges en salle. Donc là, par exemple, l'idée, c'était de faire échanger les participants autour de souvenirs autour du Lapique ou d'apporter des objets et de présenter ces objets. Et puis, la traversée, là, qui a eu lieu le 17 juin, qui est là plutôt une sortie sur le terrain où on a fait un peu deux choses. C'était à la fois de présenter aux participants la rivière. Il y a eu des travaux de réaménagement des méandres du Lapique qui avaient été tout droit. Et puis de faire travailler sur la dimension plus sensible à travers la création de cartes postales sensibles. Donc là où on pose plutôt des questions sur quel adjectif serait rattaché au Lapique, quelle couleur, enfin voilà, d'avoir une approche un peu plus sensible du lien à l'eau.
Et il y aura une autre traversée en fin d'été ou en automne ?
Il y aura une autre traversée, une autre causerie au printemps prochain.
On y reviendra, puis entre-temps, vous aurez peut-être entendu la version audio de la traversée du 17 juin. Merci, Claire Vifustek. Vous pourrez revenir justement la saison prochaine pour nous parler du Lapique. Et en attendant, tout le monde peut réécouter cette émission sur le site internet de la radio. Merci. Au revoir.